Ça, hein, je dis ça, là. La lettre sur le pare-brise. Le 27 mai 1964, vers 22h15, un jeune Parisien trouve une lettre sous l'essuie-glace du pare-brise d'une voiture garée dans le 8e arrondissement. Et cette lettre, ce n'est pas une lettre, c'est une sorte de mot anonyme. « Affaire du bois de Verrières. Après avoir demandé une rançon qui m'a été refusée par le père du petit Luc... »«
Affaire du bois de Verrières. »«
J'ai emmené celui-ci à Palaiseau et je l'ai étranglé à 3 heures. »«
J'ai emmené celui-ci à Palaiseau et je l'ai étranglé à 3 heures. »«
À 3 heures. » »«
C'est un avertissement pour le prochain rapt. »«
C'est un avertissement pour le prochain rapt. La rançon ou la mort. »«
La rançon ou la mort. Voici les preuves que je suis bien le ravisseur. » Luc portait une veste côtelée
marron clair. Luc portait une veste côtelée marron clair que j'ai gardée pour preuve à l'échange de la rançon.
Luc portait une veste côtelée marron clair que j'ai gardée pour preuve à l'échange de la rançon.
Luc portait un petit livre illustré relié, Histoire de Bugs.
Histoire de Bugs.
Il m'a dit être né le 9 mai 1953 et que son père a une voiture, Ariane.
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 Il avait du mercurochrome,
sur une jambe.
Il avait du mercurochrome sur une jambe. Je l'ai trouvé au métro Ville. L'homme vu à 5 heures est hors de cause. C'est pour cela que j'écris ce papier. Signé XXX.
XXX.
L'affaire Lucien Léger. Un documentaire d'Alexandre Hérault et Yvon Croisier. Épisode 1. Le feuilleton de l'étrangleur.
Quinze jours plus tard, 13 juin 1964. Yves Taron, le père du petit Luc, reçoit une longue lettre. Extrait.
Le général Massu n'a-t-il pas obtenu une étoile de plus après avoir fait tuer des enfants de l'âge de votre fils? Au nom de quoi? Et vous me traitez de malade? M'est avis qu'il y a beaucoup de malades en France et qui courent les rues dans ce cas. Un misérable inverti, je n'aime pas m'insulter. Donc je ne suis pas un sadique. Ceux qui tuent des enfants peu après en avoir abusé sont des monstres. Et je vous jure que je n'en fais pas partie de cette catégorie de monstres. Je n'ai pas tué Luc pour cette raison, ni par plaisir de tuer. Tuer n'est pas un plaisir pour moi. C'est un moyen de presser la société pour lui faire vomir son jus sanglant, l'argent qu'elle pose en maître et pour lequel elle ne recule devant rien. Moi non plus, je ne reculerai pas. Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres, peut-être. Mais si je pousse, c'est parce que mes racines sont dans le fumier qu'est la société dans laquelle vous aussi vous pataugez, monsieur Taron.
Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres. Mais si je pousse, c'est parce que mes racines sont dans le fumier de la société dans laquelle vous aussi pataugez, monsieur Taron.
Stéphane Troplin, ça va être un exercice un peu difficile. Résumer une histoire si particulière. En 1964, un enfant de 11 ans est trouvé mort. Luc Taron. L'étrangleur capte alors l'attention médiatique par une série de messages revendiquant ce meurtre. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter et comment, vous, qui y avez consacré ce livre, Voleur de crimes, avec Jean-Louis Ivani, vous auriez envie de nous la résumer? Cette affaire Lucien Léger.
Alors, c'est effectivement pas facile, hein, à résumer. En fait, l'affaire Léger est une affaire à étages, à compartiments. C'est une affaire qui en emboîte d'autres et qui pose une multitude de questions. La première, c'est la question d'une révolte, d'un individu qui va s'emparer d'un pouvoir qu'on appelait à l'époque le quatrième pouvoir, la presse, pour l'instrumentaliser, exprimer un certain nombre d'idées qui, à l'époque, faisaient pas forcément du bien à entendre, hein, notamment des questions liées à la guerre d'Algérie. Les messages que l'étrangleur a signés et que Lucien Léger a écrits évoquent cette part sombre de l'histoire policière, notamment aux militaires françaises. La deuxième question, c'est la question de la culpabilité. C'est une condamnation à perpétuité qui a été prononcée sans preuve et sans mobile. Et puis enfin, c'est la troisième dimension, ce serait la dimension carcérale, avec une peine qui, à l'époque, compte parmi les plus longues que l'histoire pénitentiaire française ait connue. Quand Lucien Léger sort de prison en 2005, il a gardé toutes ses facultés mentales et il s'est inscrit dans un combat auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État français pour détention arbitraire et traitement inhumain. Donc là aussi, il y a une dimension, là encore, finalement, on y revient, mais qui est redevenue politique à son affaire.
Philippe Génada, pas forcément facile de résumer ce que vous avez mis plus de 4 ans à étudier, ce dernier livre, Au printemps des monstres, sur l'affaire Lucien Léger. Comment, ce n'est pas une question punitive, vous nous livreriez un pitch?
C'est pas une question punitive, ben merci, heureusement. Qu'est-ce que ce serait? Donc c'est une sorte de monstre qui inonde les journaux, les policiers, la famille du petit garçon, de lettres anonymes ignobles pendant 40 jours, qui mènent la presse et même le monde politique et évidemment policier par le bout du nez pendant 40 jours, en inondant, je ne sais plus combien il a écrit de lettres, mais une cinquantaine, disons. Et ce sont vraiment des lettres ignobles, sadiques, haineuses, violentes. Donc Lucien Léger passera 42 ans presque en prison. Vu de loin, comme ça, on se dit, c'est beaucoup, 42 ans, c'est trop, mais enfin, faut comprendre, c'est un peu mérité. Et puis quand on se rapproche, quand on creuse, quand on cherche, ben on se rend compte qu'il avait raison sur beaucoup de points. Et moi, au bout de 4 ans, comme Stéphane Troplin et Jean-Louis Vanni, j'ai la certitude, je mets un bras et une jambe à couper, que Lucien Léger n'a pas tué ce petit garçon, qu'il a donc passé 42 ans en prison pour rien, qu'il pouvait passer quelques années peut-être en prison parce que il est certain que c'est lui qui a écrit les 50 messages abominables, y compris des messages aux parents. Il écrivait aux parents en disant « Je comprends que vous soyez triste de la mort de votre petit garçon, mais mettez-vous à ma place. Vous, au moins, vous n'avez pas vu ces grands yeux de biche qui s'éteignaient pendant que je l'étranglais. » Enfin, c'est ignoble d'écrire ça. Et c'est Lucien Léger qui a écrit ça. Donc ça mérite quand même une bonne baffe, voire un peu plus. Mais 42 ans de prison, 13 demandes de mise en liberté refusées, non.
Le 26 mai 1964, disparaît le petit Luc Taron, âgé de 11 ans. On le retrouve le lendemain matin.
Oui, alors effectivement, le 27 mai, un promeneur découvre le cadavre d'un petit garçon. Un scripteur commence à rédiger son premier message.
La France bascule alors dans une sorte de psychose collective.
Au début, le scripteur ne signe pas l'étrangleur. C'est une signature qu'il va trouver effectivement début juin. Auparavant, sur son premier message, il a une étrange signature, XXX, donc trois croix. Début juin, vraiment, tout bascule, effectivement. Les messages sont non seulement divulgués à la presse, mais leur contenu est exploité par les médias sous la forme d'une psychose de peur. Le scripteur donne un certain nombre d'informations. La plupart des informations contenues dans les messages sont fausses. Le seul élément qui retient l'attention des enquêteurs, c'est l'élément du tout premier message, et notamment la veste côtelée de Luc Taron. C'est un élément qui n'avait pas été donné aux médias lors de la découverte et peu après la découverte du crime. Et c'est un élément que seul peut connaître soit l'auteur du crime, soit un complice. C'est l'alternative que posent les enquêteurs dans leur premier rapport d'enquête. Soit le scripteur est le meurtrier, soit c'est quelqu'un qui connaît le meurtrier.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est manifestement fou, dangereux, prêt à tout, qui ne reculera devant rien. Et pendant des jours et des jours, Lucien Léger, ce petit homme insignifiant, fait la une de tous les journaux de France. On en parle à la télé, on en parle dans la politique, etc. Donc lui, il se sert de ça, mais il s'en sert bien. Et la presse se fait une chambre d'écho extrêmement puissante qui, je pense, l'a surpris lui-même. Donc la panique collective, c'est du même ordre que ce qu'on a eu ensuite avec les terroristes ou les choses comme ça. Tout le monde a peur et c'est normal. Et là, les parents ne laissaient plus sortir leurs enfants.
Et tout à l'heure, un visiteur au journal de France Inter, le père lui-même du petit Luc, Monsieur Taron, qui jette la bouteille à la mer et lance un appel.
Je me permets de supplier au nom de cet enfant, au nom de cette maman, tous les gosses de Paris, quels qu'ils soient, quel que soit leur quartier, quel que soit l'endroit où ils circulent, et qui auraient ces temps derniers reçu des propositions de promenade, des promesses de bonbons ou toutes autres, de bien vouloir demander à leurs parents l'autorisation de prendre contact avec moi, Monsieur Taron, 18 rue de Naples, à Paris 8e. Tout renseignement, même le plus anodin, sera reçu par moi avec gratitude. N'oubliez pas que le plus petit fait, même celui qui vous semble sans importance, peut permettre d'identifier un coupable. Ne craignez pas de me déranger. Même si vous vous trompez, je vous remercierai quand même. Je vous remercie déjà à l'avance.
Le téléphone de M. Taron, la borde 90 64.
Mais qui est l'étrangleur? Que sait-on de lui?
On ne sait rien de lui. Tout ce qu'on sait de lui, c'est ce que lui a décidé qu'il fallait savoir. Et ce sont des choses, pour la plupart, qui s'avéreront fausses. C'est que c'est un fou. C'est qu'il est prêt à tout. C'est qu'il en veut au monde entier. On sent dans les lettres, si on les regarde avec les yeux un peu plissés, que c'est quelqu'un qui souffre, qui a souffert de quelque chose, qui en veut à la terre entière, et qui en tout cas est arrivé à un point où il est prêt à tout, à tuer des enfants. Il en parle avec un cynisme, une haine de la société qui est vraiment effrayante. Vraiment, c'est presque un personnage de méchant dans les films un peu de série B, c'est-à-dire que c'est un révolté qui montre les dents, qui crache, qui tempête, et qui est prêt à tout, et qui vraiment ne regrette pas, il ne semble pas regretter le moins du monde d'avoir tué un enfant de 11 ans pour marquer son opposition à la société.
La personnalité de l'étrangleur, donc ce personnage fictif que Lucien Léger a créé, se développe au cours des messages qui sont en effet construits comme autant d'épisodes d'un feuilleton. Là, on est presque revenu à la presse du 19e siècle, au grand roman populaire où les quotidiens livraient régulièrement un épisode d'une grande saga romanesque d'aventure. Mais là, on est dans le cadre d'un polar vrai, avec une vraie mort, celle d'un enfant. Il y a aussi la possibilité que alors soit l'assassin, soit le complice connaissent plus ou moins intimement le père de Luc Taron. Et c'est une hypothèse qui va gagner en épaisseur au cours de l'enquête.
Autour de la mort de ce petit garçon, Luc Taron, 11 ans, le mystère continue à régner. Nous ne voulons pas ce soir faire une enquête, mais simplement vous présenter les éléments de cette affaire qui dure depuis 16 jours.
Assez rapidement, l'opinion publique va se diviser sur son appréhension de l'étrangleur. Si j'ose dire, il y aura les pour et les contre. Au cours de l'enquête, à peu près à la mi-juin, les journalistes vont interroger un certain nombre de personnalités de ce qu'on appelle le show business de l'époque, donc des chanteurs, acteurs, célèbres. Et certains considèrent l'étrangleur avec sympathie, parce que à ce moment-là, dans ses messages, Lucien Léger balance des informations ou des faits qui font pas plaisir à l'État français.
Oui, il écrit une lettre à Papon qui est assez amusante, qui commence par « Salut Papon la matraque, t'es un pauvre con », ce qui évidemment montre à quel point il peut être déterminé. Et oui, il parle beaucoup d'argent, il parle beaucoup de manque d'argent, et donc c'est comme s'il attaquait un peu non seulement le capitalisme, mais aussi les médias, il s'en prend aux médias. Enfin, c'est finalement un discours qui pourrait être tenu maintenant par un forcené retranché et prêt à tirer sur tout le monde, quoi.
Un journal comme Le Canard Enchaîné, pas connu pour prendre fait et cause dans des affaires criminelles, hein, va souligner que c'est bien dommage qu'on doive ces déclarations à un meurtrier, mais ils disent il faut bien reconnaître que ce scripteur a raison. Effectivement, la police et l'armée française se sont rendus coupables dans ces années-là de crimes, de tortures, qui sont tout aussi scandaleux que celui que l'on reproche au scripteur qui n'est pas encore connu.
Et d'autres, et peut-être sont-ils la majorité, ne voient en l'étrangleur qu'un personnage dangereux, fou furieux, paranoïde, et puis vaguement aussi mégalomaniaque, ne pensant qu'à sa propre publicité. Preuve en est, dès que les médias ne s'intéressent plus à l'affaire, il revient, il refait des messages. On va avoir 56 messages en tout avant son arrestation. Il écrit même à la presse étrangère de l'autre côté de la Manche.
Paris, Tuesday, June 23, 1964. L'étrangleur, Paris 15e, Daily Express, London. This letter est for the Criminal Police of London. Cher monsieur, depuis un mois, je tiens en échec la police française après avoir tué un enfant de 11 ans, comme vous devez le savoir. Cela s'appelle ici l'affaire Taron, et c'est le célèbre étrangleur qui vous écrit. J'avais demandé une rançon qui m'a été refusée. Depuis, comme on paraît hésiter à me croire capable de recommencer bientôt, j'ai tué hier soir une cinquième personne à Paris. Ici, c'est formidable. C'est la plus célèbre affaire du siècle. Certains disent que je suis fou. Un fou, Je t'aurais pas déjà fait arrêter, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi, si vous le voulez, par l'intermédiaire du journal français Paris Presse. Merci, thank you very much, l'étrangleur XXXX.
Jacques Chabot, il nous faut retrouver encore une fois l'affaire Taron. L'étrangleur doit être satisfait, lui qui veut de la publicité.
Oui, c'est ce qu'il disait dans une de ses dernières lettres. Ne cessez pas de parler de moi, sinon il y aura un nouveau cadavre et je ne reculerai pas. Mais comme le dit le commissaire Camard, l'étrangleur, c'est la différence qu'il y a entre un paranoïaque et un paranoïde, un schizophrène et un schizoïde. C'est un garçon d'une culture certaine et qui connaît des choses en psychologie, en psychiatrie. Cela dit, il y a à côté de ce garçon intelligent et cultivé un pervers délirant qui tout d'un coup fait d'étonnantes déclarations. Je suis de cette graine qui pousse dans le printemps des monstres, etc., etc. Cependant, que pense de cette lettre M. Taron? À qui elle était adressée? Eh bien, M. Taron le dit à Alain Créache.
Bien, vous savez, c'est toujours un tissu de vrai et de faux, comme il l'a dit lui-même.
Et êtes-vous d'accord pour situer l'âge de l'étrangleur qui pourrait avoir une trentaine d'années suivant une date qu'il indique?
Maintenant, il est évident qu'il doit avoir entre 25 et 30 ans.
Pourquoi le dites-vous?
Parce qu'il situe son service militaire en Algérie en 1957, et qu'en conséquent, on peut admettre qu'il avait à ce moment-là dans la vingtaine d'années.
Si cela est vrai, évidemment.
Ou 23 ans même, ou peut-être 25 ans.
Qui est Philippe Génada, Lucien Léger, lorsqu'on l'arrête, précisément ici, là où on se trouve, dans cette chambre de l'Hôtel de France, qui est dans le quartier des Invalides, boulevard de la Tour Maubourg, qui découvre-t-on?
On découvre un petit bonhomme, pour le coup, on dit souvent dans les procès, il n'avait pas l'air du monstre qu'il est. C'est un petit bonhomme insignifiant, petit, même physiquement, plutôt freluqué, presque exactement l'inverse du personnage de l'étrangleur qui s'est créé. Et l'endroit où on est là, oui, l'Hôtel de France, qui est là un hôtel 3 étoiles tout à fait respectable, c'est en fait à l'époque que là on pourrait être surpris que quelqu'un qui n'avait pas un sou, qui n'avait pas de quoi s'acheter des haricots verts, comme Lucien Léger, vive dans un hôtel en face des Invalides, quoi. Mais à l'époque, tous les gens qui ne savaient pas où dormir, c'était les meublés, les garnis, qu'on appelait à l'époque, et c'était vraiment des endroits sordides, sans toilettes évidemment, c'était vraiment des taudis, il y en avait partout dans Paris. Donc lui, il voulait combattre contre ça, et c'était juste un petit bonhomme sans aucun pouvoir, qui avait le charisme d'une chipolata, enfin c'était vraiment... il n'avait pas d'argent, il avait une femme dont on a pensé qu'elle était à moitié folle ou complètement folle, il n'avait pas d'amis, aucune influence sur rien, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas influer sur quelque chose qui était à un mètre de lui, c'était vraiment presque un cafard dans la ville à Paris. Sauf qu'à l'intérieur, et c'est ça qui a créé le problème, à l'intérieur, Lucien Léger était quelqu'un d'extrêmement intelligent, cultivé, gentil, plein de bonnes intentions, plein de rêves de grandeur, peut-être un peu trop grand pour lui. Et en fait, c'est la différence entre son apparence et son pouvoir, entre guillemets, dans la vraie vie, et ce qu'il avait à l'intérieur de lui, et ce qui a créé cette situation aberrante où ce tout petit bonhomme s'est transformé en un monstre dont on parlait même aux États-Unis, The Strangler of Paris, enfin bon... Et c'est ahurissant l'écart entre ce qu'il était et ce pourquoi il a voulu se faire passer.
Eh bien, ça y est. L'étrangleur est sous les verrous où il va l'être d'une minute à l'autre. Le rôle de la police est terminé et Lucien Léger, tel est son nom, va être transféré à Versailles où le juge Seligman instruit l'affaire.
Jean-Yves Ivani, où étiez-vous le 5 juillet 1964.
Alors, d'abord, faut vous dire que j'avais 17 ans. J'avais 17 ans et je m'intéressais pas beaucoup à la télévision, mais il y avait à ce moment-là un Tour de France et c'était une de mes passions. Quelques jours auparavant, dans le journal France Soir, un mage avait prédit que Anquetil allait mourir dans les Pyrénées. Donc j'attendais, et j'attendais surtout des images. Et qu'est-ce qui arrive au lieu de Jacques Anquetil, mon idole, un petit bonhomme, de rien du tout, avec des menottes devant un tricot digne de celui qu'aurait pu faire Thérèse dans « Le Père Noël est une ordure », et je le vois goguenard, entre deux flics, ils les regardent comme ça, il y en a un qui fume une clope. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, c'est ma grand-mère qui me l'a soufflé. Elle me dit, ah, c'est le gars qu'ils ont arrêté, qui a tué le gamin.
L'étrangleur est démasqué. L'homme qui a étranglé le petit Luc Taron, âgé de 11 ans, dont le cadavre fut découvert le 27 mai. L'homme qui a défié la police et l'opinion publique pendant 38 jours, en particulier en envoyant 56 messages à la presse et à des personnalités, cet assassin hors série a été démasqué. C'est un infirmier de l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Il s'appelle Lucien Léger. Il est là, menotté aux mains.
Et après, là, j'entends la voix off de Potcher qui dit, c'est avec ces mains-là que cet infirmier psychiatrique a tué le petit Luc Taron. Et moi, je vois l'autre presque rigolard. Et le journal, il faisait strictement une demi-heure à l'époque, 20h, 20h30. Et l'étrangleur attrapé menotte en main, ça a fait 10 minutes. Et c'est le début, pour moi, de la télévision, de l'info-télé-spectacle.
Monsieur le commissaire Camard, je suppose que enfin la première brigade mobile respire.
Vous pouvez le dire, parce que nous venons de passer une quarantaine de jours qui ont été vraiment pénibles.
Parce que après, on va interviewer les deux flics, mais les chefs, qui vont dire, il nous a embêtés pendant 40 jours, il nous a embêtés toute une nuit, enfin c'est à peu près ça qu'il racontait. Et c'est extraordinaire, c'est qu'après on est passé à des séquences, comme un feuilleton ou une série. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu la description du personnage Léger, un infirmier psychiatrique, mais aussi un amateur de cinéma, un musicien, un poète, et l'image montrait un flic en train de feuilleter une revue de poèmes.
Lucien Léger était aussi poète, mélomane. Il avait enregistré un disque, publié des recueils. Les enquêteurs, qui vont nous montrer ici ses pièces, vont aussi nous commenter les dernières heures de l'interrogatoire.
Eh bien, ça a été un moment assez curieux parce qu'il s'est effondré, il a pleuré. Il a pleuré.
Vous avez l'impression qu'il était libéré d'une obsession?
Ah oui, moi personnellement, j'ai eu l'impression très nette d'une libération. Quelques instants après,
et après, on est passé une séquence qu'on appelle
un micro-trottoir.
Oui, un micro-trottoir, mais c'était pour détendre l'atmosphère. Là, on trouve quelqu'un, un couple. Il y en a un qui ouvre, il est presque en morcelle, il dit oh, arrête, c'est une blague. Et elle est en peignoir, elle arrive derrière.
Oh, menteur! Allez-vous-en,
et là, elle se dit, on est les voisins de l'étrangleur, c'est pas possible.
Elle y croit pas.
Et on passe à autre chose.
Monsieur et Madame Taron arrivent maintenant au siège de la brigade mobile Faubourg Saint-Honoré.
Elle est en noir, digne, des lunettes sombres. Et elle dit, ah oui, j'ai appris la nouvelle, il y a trois quarts d'heure.
Il y a trois quarts d'heure, exactement.
Nous étions à Verrières.
Et le temps de que ma mère et mes voisins me préviennent.
Cigarette. Alors lui, dans la bouche, puis après il l'enlève quand même. Et puis il dit, oh, de toute façon,
parce que vraiment, nous n'aurions pas voulu.
Je souhaite sa mort. Il a toujours été comme ça du début à la fin. Il s'est toujours. On n'a jamais compris, on ne l'a jamais vu triste.
Je ne peux pas considérer que quelqu'un qui n'est pas un fils quelconque ait commis un crime aussi atroce sans raison.
Est-ce que vous en êtes à souhaiter sa mort?
J'en suis non seulement à souhaiter sa mort, mais à souhaiter qu'on ne puisse pas faire mieux.
Et ça se termine à l'intérieur. Retour intérieur.
Oui, c'est pour les parents du petit.
Plan général, dans la cour du SRPJ, et d'un seul coup, on voit des sunlights comme au cinéma qui s'allument. Et on voit mon Lucien Léger, et qui regarde et qui me fait penser à un homme que j'admirais beaucoup à l'époque et que j'ai toujours admiré et encore aujourd'hui, Jean-Luc Godard. Il ressemblait à Godard, avec ses lunettes.
Ne change rien pour que tout soit différent. Ne va pas montrer tous les côtés des choses.
Et d'ailleurs, dans le JDD, la photo de Une, c'est Godard, parce qu'en plus, il est une sorte de costard blanc. Enfin, et on l'emmène, et on va jusqu'à deux bagnoles, et Léger rentre dans une des deux voitures, regarde la caméra, là, il n'y a plus de son, et il se fait comme ça.
Il fait
comme ça.
Il met sa main sur sa barbe naissante.
Oui, il a une barbe de 24 heures, 48 heures. Hein.
Comme s'il s'excusait de ne pas
être... Il s'excuse de ne pas être rasé pour la circonstance, parce que c'est quand même le plus beau jour de sa vie, apparemment. Je dis bien apparemment. Et ça se termine. Et on nous dit que le juge Seligman attend d'une minute à l'autre dans son bureau du palais de Versailles, il est 20h15, dans son bureau du palais de Versailles, pour signifier l'inculpation à Lucien Léger.
Inter-actualité.
Au micro, Raymond Tortora,
Michel Enfrol,
Jacques Chabot,
Louis-Philippe.
Lucien Léger, l'étrangleur, l'assassin du petit Luc Taron, démasqué hier par la police, a passé sa première nuit en prison. Lucien Léger y a été conduit par les couloirs intérieurs de la prison qui est mitoyenne du palais de justice. Son arrivée au palais de justice de Versailles hier soir étant plutôt mouvementée, la foule des Versaillais voulait le lyncher. Au dossier de cette étrange affaire, ce document réalisé par notre reporter Alain Barraud.
La foule est très nombreuse devant le palais de justice et attend l'homme qui l'a fait trembler pendant de longs jours.
La foule se précipite sur la voiture et semble vouloir rendre par elle-même justice à ce meurtrier. Les policiers entourent la voiture et essayent de dégager l'homme. Comme vous pouvez vous en rendre compte, les gens hurlent. L'homme très pâle, entouré des policiers et du commissaire divisionnaire, entre à l'intérieur du palais de justice, tout simplement en ce moment submergé par la foule. Les gens crient, l'homme reçoit des coups de toutes parts. Les policiers sont obligés de le protéger. Il se fait taper dessus par tous les gens qui se trouvent sur les abords du palais de justice.
Assassin ! Mais tuez-le ! Pourquoi ? C'est un assassin de gauche !
Voilà. Pour la police, l'affaire est terminée, c'est au tour de la justice de jouer maintenant. Elle devra se prononcer, cette justice, sur cet homme étrange, sur ce paranoïaque qui avait avoué lui-même être de la graine qui poussait au printemps des monstres.
Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres.
Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres.
Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres.
Si je pousse...
Mais si je pousse, c'est parce que mes racines sont dans le fumier de la société dans laquelle vous aussi pataugez, Monsieur Taron.
Vous aussi vous pataugez, Monsieur Taron.
L'affaire Lucien Léger, épisode 1, le feuilleton de l'étrangleur. Avec Philippe Génada, auteur de « Au printemps des monstres » aux éditions Mialet Barreau. Stéphane Troplin et Jean-Louis Ivani, auteur de « Le voleur de crime » aux éditions du Ravin Bleu. Archivina, Pierre Pinault, une histoire particulière, coordination Christine Bernard, attaché de production Sylvia Favre. Les pages web, c'est sur franceculture.fr. Et le podcast sur l'appli Radio France.